RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC avec la Dream Team, Stephen Brun, Félix Gabory, Frédéric Weiss.
Salut Pierrot, salut tout le monde.
Bonjour, salut tout le monde. Ça y est, c'est parti, c'est un spécial play-off. On va faire le point sur les premiers matchs, les play-offs d'abord à l'Est, ensuite à l'Ouest. Et dans la partie historique, vous allez me raconter les play-offs, la première campagne de play-off d'une méga star de l'histoire de la NBA. Par exemple... la première campagne de play-off de Magic Johnson qui se finit par un titre.
Par exemple, ça aurait été pas mal.
C'était pas, on n'avait pas le droit.
On n'avait pas le droit parce qu'on l'a déjà raconté trois fois. À chaque fois, c'est Fred.
Chaque fois, c'est moi, oui.
Donc cette fois-ci, ce sera d'autres mégastars qui ont connu des fortunes diverses pour leur première campagne de play-off. Vous avez regardé des matchs en direct ? T'as commenté des matchs, Fred ? T'as commenté quoi ?
Raptors, Cavs.
Sympa.
C'était affreux.
Ton équipe, par contre.
C'était affreux. Et Paul Tull, il n'a même pas joué la deuxième mi-temps. C'était catastrophique.
Jamal Sheed.
Non, mais il y a du bon Harden, du bon Donovan.
Mobley. Oui, oui, c'est vrai. Mobley a été très bon aussi. Ouais. Oui, oui.
C'est correct.
Non,
mais il y a un écart entre les deux équipes.
C'est
pas la série la plus excitante.
Surtout que sur les trois superstars Toronto, s'il y en a une qui met pas un pied devant l'autre, ça commence à être compliqué.
En revanche, il y a des séries
magnifiques
qui sont beaucoup plus excitantes. Et donc, on va démarrer par les playoffs à l'Est.
McCollum wants the matchup. Goes to work. Couple of crosses. McCollum with the basket. Makes it home. Atlanta has a lead. Brunson to tie the game. And he does. Book it for Brunson.
Nice. Oh, Jalen Brunson.
Hart with the rebound. No timeout called. Get it up for Bridges. Put it up for the win. And he missed it. Atlanta comes all the way back from 14 down and ties the series. They win game two in MSG. 107-106.
Et donc, pour commencer, peut-être... la surprise de ces premières du play-off, c'est Orlando qui est allé croquer Détroit à l'extérieur sur le match 1. Et j'ai envie de dire, avec une certaine assurance. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un hold-up. Ils ont été devant de bout en bout. Ils les ont fait déjouer complètement.
Félix. Bah ouais, quand tu regardes le match, là, tu te demandes qui vraiment est le premier de la conférence Est et le huitième. Vraiment, je pense que si tu sors de 6 mois de sieste ou de prison et que tu n'as pas vu du tout la saison régulière, ouais. Et bah en fait, en te ramenant devant ce match, tu te dis.
Coma, bah voilà, des trucs sympas.
Tu te dis Orlando est le leader de la conférence Est, est le first seed, et Détroit s'est qualifié à l'arrache 8e. Vraiment, pour l'instant, il n'y avait pas photo entre les deux équipes, et parce qu'Orlando est sur une lancée assez folle. Après son play-in contre Charlotte, où tu sens que tout s'est mis en place, une énergie, notamment une énergie défensive, enfin, ils ont trouvé un peu cet ADN défensif. Alors, ils ont remis le temps, ils ont attendu le mois d'avril pour le faire, mais au moins, ça vient d'arriver. Et là, ils sont assez injouables sur ces deux derniers matchs. Et je regardais en direct le match contre Détroit d'Orlando, et t'avais le journaliste américain.
Tu l'as regardé où?
J'ai regardé, alors la fin de match, quand j'ai entendu ce que je vais te dire là, j'étais dans le métro, je revenais de soirée, oui, mais c'était samedi soir.
C'est pas ma question. Les commentaires étaient en quelle langue?
Les commentaires étaient en américain, justement, Julien.
Magnifique.
C'était sur le
League Pass. J'ai commenté celui-là aussi.
Et le suiveur de Orlando, donc, qui a regardé tous les matchs d'Orlando cette saison, a dit c'est tout simplement le meilleur match d'Orlando cette saison, je n'ai jamais vu Orlando jouer aussi bien cette saison. Et ça arrive pile au bon moment. Et ils font peur, Orlando, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps dans ce podcast. Fred était assez en colère, même, et était très déçu de cette saison d'Orlando.
Pierre aussi, vous étiez tous très en colère.
A raison, je pense.
Ils se mettent en route au meilleur des moments. Et toutes les attentes qu'on avait en début de saison et qui n'ont pas été réalisées pendant toute la saison,
on les a vues sur le premier match de play-off.
C'est en train de se voir sur le premier match de play-off.
Alors, c'est durable ou pas, Fred?
Honnêtement, je sais pas. Alors, il y a plusieurs choses.
Jalen durable, c'est ça que je veux dire. Ok, Steve est en forme. Alors, en plus, on a 8 séries, donc il y a des possibilités multiples de jeux de mots.
Je ne sais pas si ça peut durer, mais c'est vrai qu'ils sont à un très très bon niveau. Moi, j'ai vu Suggs exceptionnel défensivement.
Après, c'est un bon joueur, lui.
C'est lui qui lance le match.
C'est lui qui lance le match exceptionnel, vraiment, ce qu'il a proposé.
Honnêtement, sur la saison d'Orlando, s'il y a un joueur qui a répondu présent, alors quand il était là, parce que ouais, malheureusement, souvent l'infirmerie, c'est bien Jalen Suggs. Hein.
Clairement, mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, il met vraiment son équipe sur les rails, sa défense. Bien, c'est dur, Banquero trouve des solutions, tout le monde a apporté vraiment sa pierre à l'édifice, mais je me pose deux questions. La première, quand t'as pas joué bien au basket pendant tout ce temps-là, que t'es un épiphénomène, que après les play-ins qui ont été très bons, tu puisses enchaîner un bon match, oui. Est-ce que t'es capable d'en enchaîner d'autres? Je me pose la question. Et l'autre question que je me pose, c'est que Détroit a une semaine de vacances. Et parfois, on se dit, c'est important d'enchaîner les matchs, de continuer les matchs, et tu peux perdre un petit peu de rythme. Et en tous les cas, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir, une perte de rythme sur le premier quart-temps. Mais dans l'absolu, moi, quand on m'a posé la question juste après le play-in, j'ai dit oui, je pense que ça peut être un match fondateur, ce match contre les Hornets. Donc, quand tu reviens de l'enfer, quand tu viens de trouver des solutions, quand tu défends enfin, quand Banchero fait le taf et que chacun apporte ce qu'il doit apporter, bah, cette équipe d'Orlando est dangereuse et surtout elle correspond pas très bien à Détroit parce que c'est justement ils sont tellement proches parce que physiquement c'est dur parce que ça va se taper que ça va être une match-up compliquée.
C'est un flip étonnant quand même pour Orlando qui le dernier match de saison régulière a été honteux. À Boston contre l'équipe B des Celtics. Donc je sais pas ce qui a pu se passer, un petit rendez-vous dans le vestiaire, une petite discussion pour se dire bon les mecs on va pas tout gâcher non plus.
Le problème c'est qu'on n'a pas d'infiltré à Orlando. Non, on n'a pas un petit français non, dans le staff ou dans l'équipe.
On a personne mais
si, il y a Noah Penda.
Voilà comment on va savoir.
Et puis Noah Penda qui a un bon siège pour regarder, pour regarder ce qui se passe. Non, mais Fred a raison, ils se sont mis. Après, ces deux équipes, c'était très brouillon comme match. Hein. Oui. Ça jouait à 10 000 à l'heure. Ces deux équipes qui basent pas leur jeu sur le tir à 3 points. Ces deux équipes qui sont pas. Qui n'ont pas des énormes pourcentages sur le tir à 3 points. Et je crois qu'Orlando a emmené Détroit sur un match qui leur convient mieux. C'est-à-dire beaucoup de possessions, ça joue très vite. Et Détroit s'est un peu perdu. Là où je suis très déçu des Pistons, alors cette semaine de repos peut-être les a enlevés du rythme, mais on voit que les Spurs n'ont pas joué pendant une semaine aussi. Ça les a
oui, mais j'ai dit que ça bien. Pouvait hein, ouais, ouais, expliquer
mais,
ça.
Mais c'est Jalen Duren, en fait. On dit souvent les playoffs, c'est une autre découverte. Et Jalen Duren, il a compris ce que c'était. Et je l'ai trouvé. Enfin, c'est Wendell Carter Jr. en face. Hein. Il s'est fait manger par Wendell Carter Jr. Jalen Duren, qui va sûrement être dans deuxième ou troisième meilleur 5 de la saison. Il fait un très, très petit match. Et Kate Cunningham, mine de rien, les stats sont monstrueuses pour Kate Cunningham, mais elles sont un petit peu trompeuses, Kate Cunningham, parce que son premier quart-temps n'est pas très bon. Il ne lance pas bien son équipe dans cette rencontre-là. Et il voit vite que ses partenaires ne sont pas dans le coup. Et il se dit, et c'est un réflexe qui est un peu humain, il se dit, OK, bon, tout le monde est nul, et ben, je vais tout faire moi-même. Et donc, il s'est un peu isolé du reste de l'équipe. Et Orlando, eux, ont joué un très beau collectif, parce qu'il n'y a pas un mec... Il y a beaucoup de mecs qui ont pris beaucoup de responsabilités. Bane a shooté 20 fois, Wagner a shooté 14 fois. Il y a une belle répartition des tirs, tandis qu'à Détroit, c'est Kate Cunningham, un petit peu Tobias Harris, mais Tobias Harris, toute sa vie, il fera entre 15 et 17 points toute sa carrière, partout où il va. Et derrière, ils sont portés disparus. Le petit Jenkins, qui a été une très belle surprise quand Kate Cunningham était blessé. Et écoute, mon grand, c'est des playoffs. C'est avec un jeu qui est basé sur l'adresse. Il est passé au travers. Donc, la vraie problématique pour Détroit, c'est qu'il y a cette petite musique qui traîne de leur tête. C'est que depuis 2019, ils n'ont pas gagné un match de playoff à domicile.
La série est terrible.
Depuis l'année dernière, ils font 4-2 contre les Knicks, sauf que c'est deux matchs qu'ils ont gagné au Garden. Ils n'ont jamais gagné chez eux depuis 2019. Donc, c'est une petite stat qui, si elle passe entre les mains de certains joueurs, peut un petit peu trotter dans leur tête. Mais Orlando. Ils ont fait le plus dur. Je ne sais pas s'ils ont fait le plus dur parce que Détroit est capable de gagner deux fois Orlando, mais je pense que ça fait beaucoup de bien au moral.
Une fois suffira. Ouais. À Orlando.
Ah oui, pour récupérer l'avantage du terrain, oui. Mais moi, ça m'a plu. L'intensité mise par cette équipe du Magic, ça m'a plu.
Moi, seul, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un joueur aussi actif.
C'est vrai qu'il a montré aux autres sur le premier quart-temps, venez les mecs, je vais vous montrer l'intensité qu'il met deux tirs à trois points, la défense, l'attitude, le
module. Il intercepte, il est absolument partout.
Et alors, il y a vrai danger donc pour les Pistons, vous pensez?
C'est qu'un seul match, mais moi la vraie question que je me posais, Stephen, et je suis un peu d'accord avec toi là-dessus, c'est derrière Kate Cunningham, qui peut prendre le relais offensivement? Parce que quand il est un peu en galère, ou quand de toute façon il peut pas faire tout seul, et en fait derrière c'est qui? C'est Jalen Duren qui est censé prendre ses responsabilités, aller mettre des points, mais est-ce que Jalen Duren...
Après il faut lui donner les ballons aussi,
mais est-ce que Jalen Duren, en termes de profil de joueur, peut scorer tout seul?
Il a besoin de fournir son ballon, bien sûr.
Et donc c'est ça ta deuxième option offensive. Donc c'est compliqué, tu vois.
Jalen Duren, même si.
T'as Tobias Harris, mais bon, voilà.
Parce qu'il met 25 points. Mais dans la dureté, dans l'impact au rebond d'aller à Mayoche, qui est un peu son ADN. C'était un peu son ADN. Il était transparent là-dessus, sur les basiques de son job.
D'ailleurs, il s'est vu. À un moment, il prend un rebond offensif, il remonte directement au dunk. Tu vois qu'il a toute la frustration qu'il essaye de mettre dedans parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire, en fait.
Et alors, bon, on passe vite sur Raptors et Celtic Sixers. Vous voulez en dire un mot?
Cavs Raptors, moi je suis très inquiet pour les Raptors. C'était très très laid. Brandon Ingram, je sais pas où il en est, mais Dean Wade est en train de lui rentrer dedans de façon incroyable. Lui aussi, on parle de bonne défense. Dean Wade, j'ai trouvé magnifique. Et les Cavs, ils ont trois joueurs.
Ils ont un talent supérieur en attaque, Harden, Evan Mobley et Donovan Mitchell.
Et même Jarrett Allen, sur des périodes où justement il y avait besoin.
Sur le match, il commence, il met trois Thomas, Jarrett Allen, il met le match.
C'est fini.
Mais les Raptors, et puis tu joues 38 minutes avec Jamal Sheed à la main, qui, c'est beaucoup de minutes pour un mec qui n'apporte pas grand-chose. Et si t'as Brandon Ingram qui passe à côté.
Il est petit en plus. Défensivement, c'est compliqué.
Moi, les Raptors, s'ils en prennent un, j'ai envie de dire bravo pour votre saison, même si Fred sera très triste.
Hyper déçu des Raptors, c'était. Je sais que tu les aimes beaucoup aussi, toi, Fred. Moi, quand j'ai fait mes brackets en début de play-off, c'était une des surprises que je voyais à l'Est. Donc, c'est pas fini, ils peuvent toujours tout retourner. Non, mais ce qu'ils étaient sur.
Ouais, ça va être dur, là.
Déjà, d'une, parce que les Raptors étaient sur une super dynamique et je trouvais défensivement et même au niveau de leurs 5 majeurs, tu vois, quand les rotations se resserrent, ils ont quand même une vraie belle équipe de basket. Et en face, pour moi, Cleveland me donnait pas vraiment de garantie. Donc, si on devait me demander un petit peu en upset sur ce premier tour des playoffs à l'Est, j'aurais mis une petite pièce sur Toronto. Heureusement, j'ai pas mis un trop gros billet.
C'était un bracket ouvert, quoi.
Ouais, mais je voyais un petit upset. Mais après, c'est pas fini. Hein,
Félix n'est pas dans la vanne. Hein, dans l'analyse.
Sérieux.
Il y a que deux. J'ai pas compris la vanne, Pierrot.
La bracket ouverte.
Bracket ouvert. Pardon, excuse-moi. Je suis trop premier degré là. Je suis vraiment pas content, Pierrot, en fait, de ces Raptors.
Mais la problématique, elle est à l'intérieur, Potley.
Après, il y a que 2-0.
Il joue 9 minutes hier.
Potley.
Il joue 9 minutes hier parce qu'en fait il dit c'est un carnage contre lui.
Moi je suis désespéré, vraiment.
Par les Raptors, que t'aimais bien.
Non, mais j'ai pas tout jeté comme ça.
Il y a que 2-0, c'était deux matchs à l'extérieur.
Oui, mais deux matchs étaient horribles.
Et ça va vite.
Il n'y a pas un money time, il n'y a rien.
Et la blessure de Quickly, l'absence de Quickly,
ça oui, il devrait revenir pour le prochain match, j'espère.
Parce que Jamal Sheed.
Il faut toujours se méfier des équipes qui ont des joueurs hors normes qui n'ont jamais gagné.
C'est-à-dire après, on est dans la prononciation, c'est Shade.
Jamal Shade.
Ouais. Jamal Shade.
Mais moi aussi, je l'appelais Shade et tout le monde m'a repris.
Harden et Mitchell dans la même équipe. Alors, tu peux te dire que c'est vrai que parfois, ça fait n'importe quoi.
Mais toi, Pierrot, c'est qu'ils connaissent.
Oui, mais c'est pour ça que je te dis. Oui, voilà. Mais c'est quand même des clients à prendre au sérieux.
Ah oui,
c'était quand même numéro 1 l'an dernier. Enfin, sans Harden, évidemment, mais. Ça reste un potentiel quand même pour aller très haut. Hein.
Ouais, mais sur la régulière, ils m'ont pas donné de garantie. Hein,
mais sur le banc, ils ont toujours un mec capable, Max Truss, sur le match 1, mais 26. Ils ont quelques joueurs sur le banc. Même sur le banc, ils me paraissent supérieurs à Toronto.
Mais réellement, sur ce match-là, c'est le banc de Toronto qui est largement au-dessus du banc des Cavs. Et donc, c'est là que ça peut faire peur en plus, parce que s'ils progressent sur ça.
Et Celtics Sixers, on part vers un 4-0.
Boston, c'est très solide.
Ah oui.
Il y a deux équipes qui m'ont fait très forte impression, c'est Boston et OKC. OKC, ils sont pas venus pour rigoler, je te dis tout de suite. J'ai vu Alex Caruso mettre des full court pression tout terrain. Oh, le carnage.
Après, les Suns, ils n'ont pas les cannes pour.
On va parler de l'Ouest dans un instant, mais les Sixers peuvent exister ou c'est.
Tout dépendra d'Embiid. Si Embiid revient, on rappelle là qu'il s'est fait.
Il s'est fait opérer d'une bide.
Ça y est, enfin, t'es lancé quoi.
J'ai compris ça va parce qu'il a fait le geste en même temps en se touchant le bide.
Ouais, t'es obligé pour toi, c'est vrai que comme t'es premier degré.
Non, mais tout dépendra de Joel Embiid. S'il revient, ils peuvent peut-être accrocher un ou deux matchs sans lui s'il ne revient pas de cette opération de l'appendicite.
Déjà, je ne sais pas comment il pourrait revenir parce que l'appendicite, c'est pas si simple que ça. Et en plus, même avec ça, je pense qu'ils sont lancés.
On a l'impression quand même que on a des champions potentiels.
Potentiels à l'Est, oui.
Mais c'est une équipe qui peut être championne.
Jason Tatum, bon match.
Je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas bien.
Pour une équipe qui était censée vivre une année de transition, c'est quand même assez exceptionnel là, ce qui se passe.
Oui. Une année de transition voulue par la blessure de Jason Tatum.
Ouais, mais pas que, parce qu'ils avaient quand même viré des mecs, ils avaient quand même pour l'oseille.
Trop de contrats.
Bien sûr. Donc il y avait quand même une volonté un peu de.
Après, quand ils ont pris Vucevic au mois de février à la trade deadline, on a compris qu'ils étaient là pour des choses sérieuses.
Oui, en plus, c'était un super business.
Et puis Philly, moi j'ai vu des erreurs défensives, les mecs qui font des mauvaises rotations. Il laisse Sam Hauser tout seul, grand ouvert à 3 points. Il laisse les shooters de Boston. Les rotations défensives de Philly étaient un travers complet.
Il y a une académie de jeu à Boston et effectivement, si t'es pas bien concentré défensivement, t'en prends une.
Peut-être qu'ils peuvent rétablir ça. On ne sait jamais. Non, tu crois pas?
Non,
les Sixers.
T'as un bon coach quand même, Fred, qui peut faire ça. Nick Nurse, pas n'importe qui.
Il faut que Maxi mette 45 sur un match et que Hitchcock mette 25 ou 30 et que Kelly Oubre ait un petit coach.
Paul George qui peut play-off P, on n'oublie pas.
Mais après, dans la raquette, il va falloir un peu de viandasse.
Alors, il nous reste donc une série qui a été complètement relancée par une fin de match hallucinante là, lors du match 2 entre les Knicks et les Hawks, puisque ça fait 1-1, alors qu'il semblait quand même qu'il y ait une différence de niveau entre ces deux équipes, mais je crois qu'ils finissent sur un 13-0 dernières minutes pour reprendre l'avantage.
Oui.
C'est quoi ? C'est juste que les Knicks ont eu un trou noir et sont passés au travers ou c'est inquiétant ?
Honnêtement, c'est vraiment très difficile à dire, mais c'est vrai que d'un seul coup, Atlanta s'est mis à beaucoup mieux jouer, ils ont été plus en confiance, ils ont mis la pression aux Knicks, et d'un seul coup, ils voyaient plus clair.
DJ McCollum a pris feu.
Fait, le problème, c'est que quand ces Knicks-là ont des problèmes, ils s'en remettent absolument uniquement à Brunson. Et donc forcément, c'est très facile à lire quand même.
C'est la fin de match des Knicks. Où Jalen Brunson se sépare du ballon à Mikal Bridges. Mikal Bridges, il n'a qu'une envie, c'est de venir faire un main à main pour redonner le ballon à Jalen Brunson.
Mikal Bridges, il m'a fait peur aussi parfois. Vraiment, c'est
oui,
du style.
Il a joué 82 matchs cette saison. Important quand même pour lui.
Non, mais il t'a pas fait peur la tête qu'il a quand il a le ballon à la fin.
Ah oui,
il tremble, il dit vas-y, viens me la chercher.
Et puis surtout, Jalen Brunson, alors en attaque, on sait que c'est Jalen Brunson et les autres. Mais défensivement, Jalen Brunson, il a été ciblé par CJ McCollum et il a ramassé sévère. Parce que sur la dernière possession, McCollum, il veut qu'une chose, c'est un one-on-one sur Jalen Brunson.
Bien sûr.
Et il lui a mis 3 paniers sur la truffe. Jalen Brunson n'a pas pu stopper CJ McCollum. Et on rappelle qu'Atlanta, c'est un petit traumatisme quand même pour le Garden. Alors CJ McCollum s'est transformé en Trae Young parce que la dernière fois qu'un mec avait refroidi le Garden, c'était Trae Young. CJ McCollum a fait la même. Mais cette équipe d'Atlanta, elle joue bien au basket. Brunson, on parlait de la fin de match de Brunson. Il perd un ballon. Alexander Walker vient lui voler le ballon dans les mains. Et après, ça donne le tomard de Jalen Johnson. Moi, attention à cette série.
Je suis d'accord. Moi, je suis pas du tout rassuré par ces Knicks. Vraiment pas.
Phoenix. Moi, je pense que les Knicks vont passer au talent, parce qu'il y a quand même plus de talent, comme ils font toujours, que ça ira pas très loin. On pourra en reparler plus tard dans les semaines à venir. Mais je pense que ça peut passer, mais ça va être galère. Hein. Ça va être vraiment très, très galère contre Atlanta. Alors qu'Atlanta n'a pas non plus en face un roster qui est effrayant.
Ouais, mais enfin, ça joue bien au basket.
Ça joue bien au basket. CJ McCollum, pour le coup, on voit que c'est quand même un joueur de niveau supérieur.
C'est un mec, les playoffs, il connaît.
Et limite, je suis content parce qu'on a eu tendance toute sa carrière avoir CJ McCollum un peu dans l'ombre de Damian Lillard. On le faisait un peu passer pour limite des fois pour un peintre là, et je suis content de voir à quel point là, même à 34 piges je crois, il est capable de montrer que c'est un joueur de supérieur.
C'est quand même une belle addition, hein.
Alors, vous avez vu son interview à la fin,
et je pense qu'on l'a
raté, il a raté les deux lancers, il avait vraiment la haine, et j'ai trouvé ça bien. Ça veut dire qu'ils sont encore motivés, c'est qu'ils sont chauds.
Et sur les lancers de fin de match d'ailleurs, c'est assez kiffant, c'est que il y a eu pas mal de ratés, hein.
Il y a eu pas mal de ratés,
et tu vois que la pression rattrape tout le monde, même les plus.
Les Knicks, ils font un match lancé franc pas terrible du tout. Quand ça se joue à un point, et ben tu payes. Mais c'est vrai que tu aperçois qu'il y a Joel Trembler parfois sur la ligne des lancers.
Et t'as raison, Félix. C'est un move qu'on a peu commenté, qui est passé presque inaperçu. Mais l'arrivée de McCollum.
Tout le monde a dit
en tout cas,
la plupart,
Fred, je pense que
c'est faux. Et en plus, quasiment tout de suite, dès qu'il est entré dans le 5 majeur, on a tout dit. Forcément, ça change.
Premièrement, je pense qu'on n'a pas fait un seul basket time sur les Hawks cette saison, déjà. Donc,
on ne s'est pas
attardé plus que ça.
On a dû faire deux trucs sur Zachary.
En disant que depuis que McCollum était là, c'est là qu'il était meilleur. Aucune erreur.
Il a discuté avec Mopen Barr, il s'est envoyé des SMS pendant le match.
Bon, donc danger pour les Knicks et gros danger pour les Pistons, si je résume. Et aucun danger pour les Cavs et les Celtics, évidemment. Donc nous passons à l'ouest.